Pour l'heure, j'ai le grand plaisir de vous accueillir, Dan Poenaru. Bonjour.
Bonjour.
On va passer du Cap-Vert à la Suisse et un peu à la Roumanie, étant donné que vous êtes originaire de Roumanie. Vous êtes installé en Suisse depuis de nombreuses années.
1980.
Vous faisiez le compte, voilà.
Oui, on ne va pas faire le compte. Le compte est bon, ça je le sais.
Et on vous connaissait jusqu'à présent comme pianiste. Vous allez être aussi directeur d'une nouvelle saison musicale. Enfin, pour l'instant, c'est une série.
C'est une série de concerts, et puis directeur, ça sonne très pompeux.
Disons, oui. Coordinateur, tête pensante et pianiste aussi.
On essaye de mettre, de fonder un petit cycle de concerts dans un lieu qui est absolument extraordinaire, qui est le château Lusson, château de Lusson.
Alors pour les non-lausannois, les non-vaudois et même certains vaudois, parce qu'on a fait un petit test autour de nous,
oui,
on va peut-être situer le lieu. C'est dans la Broye.
C'est dans la Broye, sur la carte, direction Moudon, exactement.
Donc on est dans un coin assez avec des champs assez bucoliques.
Tout à fait, mais un coin un tout petit peu perdu. Et comme on a parlé tout à l'heure, ce château a quand même une histoire qui est très intéressante et dont peu de personnes connaissent. C'est un château qui a appartenu au fils du romancier Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes. Voilà.
Qu'il a acquis donc au début du XXe siècle, j'imagine.
Je suppose. Je n'ai pas trop étudié, disons, les origines, les noms des propriétaires. Je sais qu'il a changé de main à plusieurs reprises. Et actuellement, il y a deux propriétaires qui se le partagent, on va dire.
Et comme dans tout bon château qui se respecte, il y avait un piano. J'imagine, ou bien vous avez dû faire venir
voilà.
un piano.
Alors, on n'a pas fait venir le piano était déjà là. Mais le plus intéressant, c'est le fait d'avoir découvert la manière à laquelle on a découvert ce château. Il y a 20 ans, on a habité dans la Broye, pas loin d'Aigné. Et puis, à l'occasion des journées du patrimoine, le château a été ouvert et avec mon épouse, on est allé faire une petite visite et puis on a été fascinés par ce qu'on a vu. C'était quand même assez moyenâgeux, assez mystérieux. Et on a visité une salle qui s'appelle la salle de justice, qui est une salle qui ressemble un peu à celle qu'on voyait dans le film de Cap-et-d'Épée. Et je me rappelle très bien, il y avait peu de lumière et dans un coin, il y avait une forme qui de loin ressemblait à celui d'un piano, mais il y avait une couverture dessous. En tout cas, ça ressemblait à un piano. Voilà. Et on s'est posé la question, mon épouse et moi, sur l'acoustique qui pourrait y être dans cette salle. Comment un piano sonnerait entre ces murs chargés d'histoire, pleins de bois. En tout cas, on a tapé 2-3 fois des mains pour tester l'acoustique.
Ça, c'est la déformation professionnelle de nombreux musiciens. On n'arrive pas à s'empêcher de tester l'acoustique des salles.
C'est un atavisme de l'applaudissement. Et puis, 20 ans après, lors d'une émission justement est-ce que c'était la couleur locale, je ne me rappelle plus, on a vu un reportage justement sur ce château, on a revu la salle de justice et on avait appris qu'on pouvait le louer. Donc on a pris, pas tout le château, ça coûterait trop cher, mais uniquement la salle. Et on s'est renseigné, on a pris contact avec la personne qui s'occupait et on a pu visiter. Et là, on a découvert un excellent piano, pas tout neuf, mais dans un très bon état, un Steinway Model B qui trônait dans un coin. Je l'ai essayé et puis je me suis rendu compte qu'avec quelques corrections techniques, le piano pourrait faire l'affaire. Et en plus, la salle était splendide. Donc, voilà. C'est comme ça que l'idée de jouer là-bas a germé. J'ai donné 2 récitals durant une année et demie pour tester un peu le lieu, pour voir s'il y avait quand même des personnes qui suivaient en fin fond de la Broye, un pianiste qui essaie de jouer de la musique qu'il aime. Et apparemment, ça a eu assez de succès. Il faut préciser une chose, la salle n'est pas très grande. On ne peut pas accueillir plus de 150 personnes.
Donc on est dans un cadre assez intime,
assez
proche
intime,
des musiciens.
Voilà, tout à fait. En même temps, l'acoustique était merveilleuse. Ça sonnait bien, il y avait une âme, c'est ce qu'on nous a dit. Et on nous avait suggéré peut-être de fonder quelque chose, d'essayer d'organiser quelque chose qui soit un tout petit peu plus conséquent, pas des concerts sporadiques. Et là, il y a le coup de pouce de destin. J'ai reçu un email de la part d'un ami que j'avais quitté de vue depuis passé 30 ans, qui voulait avoir de mes nouvelles. Et il se fait que cet ami, Laurentius Dinka,
qui est violoniste,
dans l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Alors, il allait justement venir avec l'orchestre, c'était l'année dernière, ils allaient donner un concert à Rolle. Voilà. À Rolle, il me semble, c'était... Non ?
C'est fort probable, oui. Je n'ai plus l'agenda en tête.
Et puis, voilà, à cette occasion, on s'est vus, et je lui ai parlé de ce projet. Et puis, il m'a répondu tout de suite, oui, il faut juste qu'on regarde avec les dates. Car la Philharmonie va partir en tournée en Asie, après ils vont partir en Chine, enfin ils partent partout, ils n'iraient jamais à Berlin. Donc, ou très peu. Et le gros problème a été de trouver des dates
qui convenaient.
Voilà. On avait décidé de faire une soirée de musique de chambre, 3 sonates pour violon et piano. Le cadre s'y prétend tout à fait, comme je le disais tout à l'heure. Et ensuite, en rajoutant un de ses collègues avec lequel il forme déjà un quatuor Athénéum issu du rang de l'orchestre de Berlin, de demander à son collègue de se rejoindre à nous et de fonder un trio.
Donc c'est Christoph Engelbrink.
Exactement.
Violoncelliste.
Violoncelliste. Je pense, si jamais vous, sur Mezzo, il donne de temps en temps les 12 cellistes, une formation absolument extraordinaire qui a 20, 30 ans d'âge.
Et puis beaucoup de succès, qui fait des tournées internationales.
Il y est.
Très suivi.
Il y est, voilà. Donc
là, c'était un peu la magie des circonstances d'Anne Poenaroux entre votre coup de foudre il y a 20 ans pour ce lieu.
Oui.
Et puis, voilà, le fait que 20 ans plus tard, vous découvrez que vous pouvez faire des concerts, des retrouvailles avec un ami perdu de vue.
Voilà, qui m'a retrouvé, lui.
Qui vous,
voilà, en plus.
Qui vous a retrouvé.
Voilà.
Qu'est-ce qui manque de plus encore comme effet de,
mais écoutez,
de magie là-dedans?
Qu'il fasse beau, déjà pour les concerts.
Mais on est à l'intérieur, donc
on est à l'intérieur,
c'est
voilà.
Grave.
On essaye de faire connaître un tout petit peu notre manifestation. Et puis, un dernier détail, les concerts, on aurait bien voulu les organiser sur un week-end. Malheureusement, le calendrier des Berlinois est difficile à grouper, donc... On a les concerts sur l'année.
Alors, on va parler des musiques. Vous mentionnez à l'instant des musiques que vous aimez, d'Anne Poenaroux. On parlera des programmes que vous allez aborder dans ces saisons à Lucent. Mais j'aimerais, avant qu'on parle des musiques que vous aimez, que vous abordez aussi en tant que musicien soliste, vous nous avez amené plusieurs enregistrements, dont des œuvres de César Franck, enregistrées dans les années 90.
Il y a quelques années.
César Franck avec le prélude, le choral... Et la fugue, on va écouter tout de suite un premier extrait qui est le prélude.
Thank you.
On vous écoutait au piano, Dan Poenaru, dans ce prélude, chorale et fugue, là, c'était le prélude de César Franck, et on a beaucoup discuté pendant la diffusion de ce morceau, qu'on entend assez rarement, finalement, dans les récitals des pianistes. Un morceau où on entend Franck était organiste, et on entend assez bien, justement, cette plénitude, le côté très, très dense aussi de sa composition. Vous me disiez, hors micro, hors antenne, qu'on manquait un peu de doigts pour jouer les notes de Franck, des fois.
Disons, les 10 doigts ne suffisent pas. Et en plus, il faut que les 12, si on en a 12, il faut qu'ils soient très longs. Mais bon, dans l'écriture de Franck, on peut séquencer les grands accords, on peut les partager, on peut doubler ou ne pas doubler certaines notes. Il y a juste une oreille hyper avertie qui va entendre 3 fois la même note répétée à l'octave. C'est bon, lui, il entendait, tant mieux.
Et c'est ce prélude chorale et fugue, vous l'avez enregistré sur votre album, où on entend également les tableaux d'une exposition de Moussorgski. Cette idée de coupler Franck à Moussorgski, comment est-ce que vous avez pensé ce programme?
Vous voulez que je vous dise que ça vienne de moi? Eh bien, ça ne vient pas de moi.
Je
vais vous dire toute la vérité. Dans les années 70, un des immenses pianistes qui venait jouer chaque année presque à Bucarest était Aldo Ciccolini. Et je me rappelle avoir vu une immense affiche avec un de ses programmes et c'était marqué Prélude, chorale et fugue de Franck, plus encore une œuvre. Et puis dans la deuxième partie, c'était les tableaux de Moussorgski. Et ça m'a intrigué, et des années plus tard, quand j'ai eu l'opportunité de faire ce CD, je me suis dit que ce couplage irait très bien. Parce que ce sont deux mondes complètement différents. Hein.
Avec deux compositeurs quasi contemporains, quand même.
Quasi. Mais disons, Moussorgski est un peu marginal, si on regarde un peu dans le romantisme de 19e, c'était l'école des... Des cinq, oui, à part Korsakov, on a ce côté oriental dans sa musique. Moussorgski, c'était quelqu'un à part. Alors, tout ce qu'il avait comme écriture était considéré par nos professeurs d'harmonie au conservatoire comme plein de fautes, des octaves parallèles, de cannes parallèles. Mais lui, il cherchait un vide, quelque chose qui interpelle. Contrairement à Franck, qui était un compositeur beaucoup plus classique, c'était un monument de mélancolie, de nostalgie. Et cette musique, il y a dans sa musique le célèbre chromatisme des notes qui se succèdent sur le piano, touche noire, blanche, et on ne sait pas où il va. Et quand il nous amène là où on doit y aller, on se sent mieux.
Donc il y a un chemin un peu tortueux comme
tortueux.
Ça.
Tortueux. Alors, on se sent mieux à la fin du morceau, parce que jusqu'à la fin, on ne sait pas ce qui va arriver. Et puis il y a une apothéose où finalement le bien va vaincre. On ne sait pas où est le mal, mais si le bien vainque à travers une tonalité majeure, on se sent mieux.
Lorsque vous étiez étudiant en Roumanie, au conservatoire de Bucarest.
De Bucarest, tout à fait.
Est-ce que vous travailliez déjà César Franck et Modeste Moussorgski, ou bien vous étiez plus dans Schumann, Chopin?
Non, je l'avais. Disons, j'avais travaillé lors de mon adolescence, lorsque je faisais mes études au lycée de musique, qui est l'institution musicale qui précède l'université, qui était le conservatoire. Donc, pendant mes années d'adolescence, j'avais, essayer de m'approcher de cette œuvre, et puis voilà, 30-40 ans plus tard, je l'ai fait à nouveau, et puis de temps en temps, je la joue pour moi.
On parle souvent, Dan Poenaru, de l'école russe du piano, mais il y a aussi une grande école roumaine de piano, avec des personnalités comme Clara Askill, Dinu Lipati, Radu Lupu, d'ailleurs tous des pianistes qui ont un lien avec la Suisse, mais je crois que c'est un hasard des circonstances.
Un heureux hasard,
mais
on va dire.
Justement, est-ce que l'école roumaine de piano avait un lien aussi avec les Russes avant encore l'époque soviétique?
Mais je ne crois pas. Je ne crois pas. Ce sont des écoles qui sont développées à travers des grands pianistes ou pianistes qui ont travaillé directement avec des élèves de Liszt, par exemple, ou qui ont travaillé avec Busoni. Voilà, il y a eu
des grands pianistes virtuoses de la fin du 19e
voilà,
siècle.
Exactement. Et puis voilà, après tous ces Sundays, certains sont partis en Russie, d'autres sont restés en Roumanie. Et puis il y a eu des écoles locales qui se sont développées. Voilà,
dans différentes régions.
Je dirais principalement à Bucarest, on va dire. Il y avait la célèbre Florica Musicescu, qui était le professeur ou la professeure, je sais pas comment on dit, de Dino Lipati. De Dino Lipati, voilà, qui l'a découvert. Et puis, par la suite, Lipati est allé à Paris et a travaillé avec Cortot. Mais bon, Lipati, qu'il soit né à Bucarest ou à Moscou, ce sont des génies qui appartiennent au monde entier. Il n'est pas forcément le produit d'une école roumaine. Tout comme, je dirais, Rachmaninov, comme pianiste, j'entends. Tous ces pianistes sont au-delà de ce qu'une école va donner comme musicien.
Et est-ce que vous-même, vous vous considérez comme étant un produit, entre guillemets, de l'école des pianos roumaines ou peut-être d'une école musicale,
mais
tout simplement?
Moi, je suis un produit, mais Lipati était un génie. Alors, c'était un autre.
C'est joliment qualifié. Est-ce que vous êtes d'accord alors qu'on écoute le produit de votre produit, alors, si on file la métaphore, voilà, à travers un autre enregistrement que vous nous avez amené aujourd'hui, c'est les deux concertos de Brahms que vous avez enregistrés en 2006 en Roumanie.
Oui.
Avec, vous allez me dire le nom de l'orchestre que je ne vois pas.
L'orchestre philharmonique Mikhail Jora de Bacău.
Qui est dirigé par Ovidiu Balan. Oui. On va écouter un extrait du deuxième concerto avec le début de l'Indinté, avec cette magnifique introduction par les cordes. Et puis peut-être si on aura le temps ensuite, on écoutera aussi le quatrième mouvement.
Voilà.
Thank you.
On vous écoute, Dan Poenaru, dans le troisième mouvement du deuxième concerto pour piano et orchestre de Brahms, avec l'orchestre philharmonique Mireille Jora, dirigé par Ovidio Balan. Et j'ai oublié de préciser, donc, c'est un enregistrement qui figure sur un double album avec le premier et le deuxième concerto. Et je n'ai pas mentionné que vous étiez en live durant cet enregistrement.
Voilà, j'ai joué les deux concerts le même soir.
Ce qui est un sacré défi pour les pianistes. Ça ne se fait
pour
pas
moi,
si
surtout,
souvent.
Disons, égoïstement, c'était pour moi.
C'est donc assez une longue soirée, finalement.
J'ai accaparé l'attention du public pendant presque 2 heures. Je pense que j'étais lessivé à la fin, mais c'était pour la bonne cause. Nous avions enregistré d'ailleurs les deux concerti durant 4 jours. Et puis l'ingénieur du son avait émis l'idée que si on mettait des micros, si on laissait les micros sur place, peut-être que le live pourrait s'enregistrer aussi, et puis on verra, on va faire un choix. Et puis voilà, comme je le disais tout à l'heure, à part un petit montage du fait qu'un natel avait sonné pendant le concert, surtout la sublime partie de deuxième partie du premier concerto,
dans
on a dû coller, voilà, mais on avait tout le matériel. Sinon, c'est voilà.
Et c'est l'énergie qui se dégageait du moment de concert était beaucoup plus forte
que
pendant les sessions d'enregistrement.
Il y a beaucoup de risques quand on joue un concert parce que, en sachant qu'il y a un enregistrement qui se fait, on a peur de la fausse note. En même temps, on ne sait pas si on doit se laisser aller, on est trop subjectif, pas subjectif. C'est tout un mélange qui se passe dans la tête de l'artiste, et puis finalement on arrive à un compromis qui est celui que vous entendez maintenant.
Les autres albums qui composent votre discographie, Dan Poenaru, il y a justement ces Brahms, il y a des sonates de Mozart aussi.
Ça a été le premier enregistrement.
Et puis un album autour de Schubert, Chopin,
voilà,
Franz Liszt.
Ça a été un disque qui a été enregistré aussi live à Moscou, au conservatoire Tchaïkovski, dans la salle Rachmaninov.
Voilà, une des salles légendaires du conservatoire.
Elle n'est pas si légendaire que ça,
c'est la petite salle.
Vous savez pourquoi? Vous connaissez? Je ne sais pas si vous la
connaissez. J'ai fait une visite il y a longtemps au conservatoire Tchaïkovski de Moscou.
Eh bien, cette salle-là, c'était l'église dans laquelle Rachmaninov chantait dans le chœur.
Lorsqu'il était enfant.
Quand il était enfant, exactement. Et cette église a été rajoutée comme salle de concert à la...
C'est une annexe.
C'est une annexe, voilà.
Pour
c'est
les
une
récitals
petite
de
salle,
piano
pour,
et
voilà,
musique de chambre.
Voilà, c'est une salle qui n'est pas très grande, 400 places. Sinon, la grande salle, c'est 2000 et quelques, ça fait peur.
Vos répertoires sont vraiment surtout liés au 19e siècle,
au
répertoire
19e
romantique.
Siècle, exact, j'aime beaucoup le 19e siècle.
Il y a eu
siècle,
un peu
voilà.
de Bartok, je crois, j'ai vu aussi dans vos
oui, un tout petit
champs
peu.
D'affinité.
Voilà, qu'il soit dit.
Mais sinon, pas tellement plus loin. Vous êtes vraiment resté lié
j'aime,
à la tradition
j'aime
romantique.
J'aime la musique qui me procure des sentiments. Voilà, alors Bartok me les procure. Voilà, plus proche de nos jours, j'ai du mal.
Et des compositeurs roumains
J'ai joué quelques-uns, dont bien entendu Enescu, qui est notre compositeur national, une musique absolument extraordinaire. Mais voilà, et puis à l'époque de nos études, on avait, on va dire entre guillemets, comme obligation de jouer les compositeurs, soit étudiants, soit consacrés. Et c'était un casse-tête pour apprendre les notes.
Parce que c'était trop compliqué.
C'était compliqué, puis on voulait jouer
du Liszt,
voilà, et puis pas perdre le temps avec la musique qui nous était imposée.
Là, dans les concerts que vous allez donner dans le cadre des nuits classiques autour du piano au château de Lucan, eh bien, vous retournez justement à vos amours musicales avec Beethoven pour commencer ce
voilà.
jeudi. Un programme assez conséquent, avec la première sonate de l'opus numéro 2 de Beethoven, les variations de l'opus 34, les bagatelles de l'opus 126.
Pas toutes. Et il y en a 3.
Voilà, justement, j'allais vous demander. Vous avez fait
voilà,
une sélection.
Je fais une sélection plus
la Passionata aussi.
La Passionata et puis la Opus 110. Voilà.
Donc là, vous avez aussi choisi un programme assez conséquent. Vous aimez bien, enfin, quand ça dure longtemps, de rentrer au cœur du propos.
Oui, j'essaie de mettre en exergue certains aspects de la personnalité de ces sonates.
En prenant différentes périodes aussi.
Exact. Je n'ai pas voulu finir avec la opus 111, première et 32e sonate. C'est pas ce genre de défi qui m'intéresse. Je trouve que la opus 110 est une sonate absolument extraordinaire avec les deux parties, les deux adages qui sont, voilà, qui rejoignent quelque part avant l'heure la musique de Franck. C'est dans un autre registre, mais toujours les mêmes sentiments très profonds et quelque part romantiques, même si Beethoven est un compositeur de la période classique.
Entre les deux.
entre les deux, mais on va dire c'est plutôt du côté classique.
Et puis pour la suite de la saison, quand vous serez rejoint par vos deux collègues,
voilà,
en trio,
nous avons établi un programme pour le mois de septembre qui comportera une sonate de Mozart, une sonate de Beethoven, la sonate du printemps et la sonate justement de César Franck. Voilà. Et puis au mois de mars, pour le trio, nous avons choisi le trio Opus 8 de Brahms et puis le trio à la mémoire d'un grand artiste, Tchaïkovski.
Donc il y aura de quoi faire.
Oui, autant pour le public,
pour les
surtout
autres.
Pour moi.
Et surtout voilà. Pour vous, c'est ce que j'allais
surtout
dire. Dan Poenaru, merci infiniment de nous avoir rendu visite aujourd'hui dans Magnétique.
Je vous remercie de m'avoir invité.
Et on va se quitter sur un autre extrait de vos enregistrements des concertos de Brahms.
C'est le quatrième mouvement du deuxième concerto.
Toujours avec l'orchestre Mihail Jara.
Thank you.
On écoute Dan Poenaro dans le quatrième mouvement du deuxième concerto de Brahms. Et Dan Poenaro sera en concert ce jeudi au château de Lussan, dans le canton de Vaud, dans un programme entièrement consacré à Beethoven.